France Inter. Le 18-20. Corinne Audouin.
En moins de 20 ans, elle s'est réduite à peau de chagrin. En 2005, plus de 4000 Français avaient été adoptés à l'étranger par des familles françaises. Il n'était plus que 244 enfants l'année dernière. Alors, va-t-on vers la fin de l'adoption internationale? On peut se poser la question au vu de ces chiffres. L'accès à de nouvelles techniques de lutte contre l'infertilité, des réglementations internationales plus strictes, des scandales comme celui de l'Arche de Zoé en 2007. Tout cela explique en partie cette chute drastique. L'adoption internationale n'a plus la cote. On est loin du discours humanitaire des années 80 où l'on parlait de sauver des enfants de la misère et de l'utopie des familles arc-en-ciel quand certains enfants adoptés, devenus grands, découvrent qu'ils ont été volés ou vendus, que l'histoire qu'on leur a racontée était un mensonge et que l'accès à leurs origines est un parcours d'obstacles. Pourtant, à une époque où le concept de famille ne cesse de se réinventer, n'y aurait-il pas une place pour une adoption internationale responsable et éthique avec l'intérêt de l'enfant au cœur? On en parle ce soir. Bienvenue dans Le Téléphone Sonne.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Et on part tout de suite au standard de France Inter. Nous attend Maya. Bonsoir Maya.
Bonsoir.
Alors,
merci
on me dit,
pour vos émissions.
Oui, on me dit que vous avez 50 ans Maya, que vous avez été adoptée justement à l'âge de 2 ans et demi. C'était au Vietnam.
Oui, pendant la guerre du Vietnam, oui.
Et quelle était votre question, votre témoignage? On vous écoute.
Alors, c'est une problématique très complexe. Il se trouve que j'ai retrouvé par des tests ADN des cousins éloignés. Donc, ça a été vraiment, ça a été un parcours un peu particulier parce que j'ai retrouvé des personnes qui se sont occupées de moi. 30 ans après, j'ai retrouvé une nounou qui s'est occupée de moi, qui s'est souvenue de moi. J'ai retrouvé des adoptés français, américains, qui étaient dans le même orphelinat que moi. C'est complexe parce que c'est une problématique très complexe parce que c'est à la fois une perte d'identité, une perte de son pays d'origine, mais il y a aussi des aspects peut-être moins sombres. Et je crois que c'était un sujet tabou, mais ça l'est moins parce que les adoptés ont davantage la parole. Et bon, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, puis il y a des associations qui se sont créées. Donc, je crois qu'on laisse plus la place aux adoptés, pour les adoptés de parler. Et en fait, c'est vrai que bon, j'ai travaillé avec des associations. Et c'est vrai que les Américains, les Australiens, les Canadiens ont beaucoup pris d'avance dans ce domaine, dans la problématique de l'adoption, parce que c'est vraiment très complexe. Mais moi, je sais pas. C'est difficile de se dire pour ou contre, mais je crois que c'est quelque chose avec laquelle on vit toute la vie. Et je crois que ce qui est important, c'est de, pour les adoptés qui sont là, c'est d'accompagner les enfants, bien sûr, et aussi les parents. J'ai été à des réunions de EFA avec des parents adoptifs, donc j'ai rencontré des adoptés et c'est vraiment une problématique très complexe, mais c'est vivre avec beaucoup de contradictions. Et,
d'accord.
Mais, voilà.
Merci Maya, je comprends, vous avez envie de parler et c'est un peu l'ambition de cette émission ce soir justement d'entendre votre parole. Je vous présente nos invités, nous avons ici en studio avec moi Julie Bourguin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante, membre d'honneur du collectif RRIF, ce qui veut dire reconnaissance des adoptions illicites en France, autrice de l'adoption internationale Mythes et Réalités aux éditions Anacaona, je vais y arriver, et Sébastien Roux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, auteur de « Sang d'encre, enquête sur la fin de l'adoption internationale » à paraître le 6 janvier aux éditions Vendémiaire. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que dit Maya, je vais commencer peut-être avec vous, Joui. Ce qu'elle dit est intéressant, elle dit c'est il n'y a pas que du négatif mais c'est très compliqué. Enfin on sent que ça mélange beaucoup de choses dans son cœur et qu'il a fallu qu'elle fasse ce retour. Alors on ne sait pas si elle retourne au Vietnam, mais en tout cas elle a eu besoin même à 50 ans, je ne sais pas quel âge elle l'a fait, mais de revenir sur ses origines. Une adoption internationale, c'est pas une page qui se ferme et qui se tourne.
Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que ça met en jeu beaucoup d'affects, notamment au sein de la famille, les relations familiales, etc. Ça interroge beaucoup l'adoption. Après, je pense qu'il faut aussi réussir à avoir une vision un peu plus globale de l'adoption et voir au-delà des individus et voir en quoi il s'agit d'un système qui repose notamment sur des inégalités, notamment sur des asymétries entre, pour le dire vite, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il repose aussi sur des zones de droit versus des zones de non-droit, c'est-à-dire par exemple les droits pour certaines familles, notamment occidentales, de faire famille, qui reposent sur le non-droit d'autres familles et de mères en l'occurrence, de pouvoir élever leurs enfants et les garder. Et parce que, par exemple, au niveau de ce système, on voit très bien que les adoptions se font toujours dans un sens, par exemple. C'est toujours...
Les pays du Nord qui adoptent des enfants venus des pays du Sud.
Et juste, je voulais rebondir sur ce qu'a dit cette auditrice. C'est pas un sujet tabou, je pense que c'est un non-sujet. Mm. C'est un non-sujet, on ne traite pas de l'adoption internationale, ou on le traite d'une façon... moi, je dis... selon des mythes, c'est ce que justement j'évoque dans mon essai, donc l'adoption internationale, mythe et réalité, c'est-à-dire que j'essaie de déconstruire toute cette mythologie autour de l'adoption qui empêche justement, donc c'est un ensemble de croyances qui empêche de voir les pratiques. Et des pratiques qui sont souvent donc des pratiques illicites, des trafics, qui reposent donc sur des injustices. Voilà.
Peut-être que, en tout cas, le tabou, c'est peut-être pas un tabou, mais en tout cas, le sujet, on commence à en parler. J'ai le sentiment, en tout cas, que des œuvres et des livres commencent à entendre parole.
C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement, notamment depuis 2020. Je pense que les mouvements des réseaux sociaux, etc., ont participé à une libération de la parole des adoptés.
Après, je pense que qui peuvent se regrouper, qui peuvent parler ensemble.
Ça, c'est très important parce que je pense que la mobilisation, elle est vraiment. Enfin, je vais vous donner un exemple. Hein, ce qui s'est passé, par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu donc un rapport de commission d'enquête qui révélait des abus. Je reprends les termes, hein, des abus structurels au niveau des adoptions internationales. Et donc, les Pays-Bas, en février de cette année, donc 2021, ont décidé de suspendre les adoptions internationales. Le même rapport était sorti, un rapport similaire était sorti en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2021? Il y a eu une mobilisation des adoptés, en fait. Mmh. Et c'est par cette mobilisation qu'ils ont réussi à faire porter un discours critique, qui allait à l'encontre, donc, justement, de cette mythologie autour de l'adoption comme un acte, enfin, qui va sauver un orphelin, etc.
De la misère.
Voilà, etc. De la misère, etc. Et donc, c'est ça qui a changé aussi l'opinion publique. Et donc, je pense que là, en France, on en est qu'au début. Notamment donc dans l'association Graif qui s'est constituée là, donc elle est une association depuis novembre 2021. C'était avant ça un collectif qui a lancé une pétition suite justement à cette décision annoncée par les Pays-Bas en février 2021. Donc la pétition a été mise en ligne le 11 février. Et elle a atteint plus de 38 000 signatures.
Voilà. On va revenir sur tous ces sujets, vous n'inquiétez pas, on a le temps. On va écouter Sébastien Roux qui est avec nous depuis l'Arizona. Dans votre livre, Tourage, qui est passionnant, vous avez mené l'enquête à la fois en France auprès de parents qui veulent adopter, en Éthiopie, au Vietnam, aux États-Unis. Il y a quelque chose d'intéressant, vous dites que l'adoption internationale a toujours été liée à la géopolitique. On vient de l'entendre avec Maya, elle a été adoptée parce que c'était la guerre au Vietnam. Il y a toujours beaucoup d'intrications en fait dans l'adoption internationale.
Oui, c'est une des choses qui rend le phénomène particulièrement complexe. En fait, si vous voulez, c'est toujours la rencontre de parents qui viennent d'un pays particulier et d'enfants qui sont dans un autre pays par définition. Et vous regardez un peu l'histoire de l'adoption internationale, c'est toujours plus ou moins lié à des logiques politiques, effectivement. Ça peut être des temps de guerre, ça peut être des temps de famine, ça peut être des déstructurations plus globales de pays pour des questions de dictature ou d'organisation politique. Et ce que disait Madame Bourguin est juste, c'est-à-dire ça quand même toujours la rencontre entre des parents plutôt dotés, hein, des pays du Nord, avec des enfants qui sont dans des pays du Sud. Et donc, effectivement, les questions d'inégalité et de domination sont assez structurelles dans le milieu de l'adoption internationale.
On va retourner au standard tout de suite où nous attend Béatrice. Bonsoir, Béatrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Je crois que vous êtes une maman adoptante. Vous avez adopté vos enfants à l'étranger.
Oui, tout à fait. J'ai adopté 3 enfants à l'étranger qui ont aujourd'hui 17, 14 et 11 ans. Voilà, et qui vont bien, et pour moi c'est une très belle histoire.
C'était dans quel pays, si on peut vous le demander ?
En Colombie.
D'accord.
En Colombie, voilà. Moi je trouve que c'est une très belle histoire, ça montre qu'on peut faire filiation de façon différente. De toute façon, la filiation c'est 3 piliers, biologie, juridique et l'affectif, et que dans l'adoption il manque la biologie. Alors moi je trouve qu'on peut en tant qu'être humain, construire différemment, et on peut construire une vraie filiation qui, sur laquelle il manque effectivement le lien biologique. Et je trouve que la plus grande difficulté dans l'adoption internationale, c'est peut-être le regard extérieur qu'on porte sur les enfants, effectivement, adoptés à l'international, où l'adoption est visible. Pour eux, c'est, je pense, une source de difficulté parce qu'en fait, on ne les assimile pas complètement, alors que je crois que dans leur histoire, enfin en tout cas les miens, ils sont complètement assimilés. Voilà, on est complètement leurs parents et ils sont complètement nos enfants. Et c'est vraiment une très belle histoire.
Est-ce qu'ils ont gardé des liens avec la Colombie? Juste, est-ce qu'ils ont gardé des liens avec la Colombie ou un prénom ou quelque chose, une trace? Ouais.
Alors nous, on y est retourné en voyage et on en parle assez librement. Voilà, et c'est vrai qu'à Colombie, de toute façon, on a des dossiers et à la majorité, il n'y a pas de difficulté en général pour qu'ils retrouvent, hein, s'ils souhaitent retrouver leurs origines. Voilà, et alors c'est vrai que pour moi, c'est difficile ces discours. Je comprends hein, que pour certains adoptés, la réalité soit difficile. J'avoue que pour moi, c'est compliqué pour mes enfants. Cette attaque qu'on fait, et j'ai peur qu'on fasse un amalgame entre adoption internationale et adoption illicite, et c'est pénalisant pour les enfants qui sont déjà parfois traités dans la cour de récré de soit d'enfants volés, soit etc. Alors que ben, je pense qu'on peut pas faire un amalgame complet. Toutes les adoptions internationales ne sont pas des adoptions illicites, heureusement, et il faut effectivement que toutes les adoptions répondent aux critères de la Convention de la Haye, et que voilà. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention et puis garder en tête qu'il y a de très beaux exemples. Moi, j'en vis un et je sais qu'il y en a d'autres de très belles adoptions. Voilà, et je trouve que il faut pas passer de l'adoption internationale. Aujourd'hui, il y a un autre revers, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de gestation pour autrui. Et je m'interroge. Je pense que l'adoption internationale est une plus belle réponse que la gestation pour autrui, très sincèrement.
Voilà. Merci beaucoup Béatrice de votre témoignage très important également. Je voudrais poser la question à Sébastien Roux parce que c'est quelque chose que vous abordez dans votre livre sur le fait que finalement, est-ce que ce qui pose problème au-delà du fait de déraciner des enfants de leur culture, ce n'est pas le regard qu'on porte sur eux parce que finalement ces enfants ont cette double culture, peuvent la vivre. Vous avez aussi interrogé des enfants adoptés devenus grands qui peuvent vivre cette double appartenance très bien, mais c'est le regard de la société qui les renvoie toujours à soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est pas ça qui est compliqué aussi ?
Bien sûr, c'est compliqué, mais ce que je trouve intéressant dans le témoignage de l'auditrice, Béatrice, c'est qu'elle témoigne aussi que ça peut bien se passer, qu'il peut y avoir des familles dans lesquelles les enfants sont intégrés, il y a une parole qui a l'air assez possible. J'imagine que madame a été encouragée à raconter l'histoire de ses enfants. Ses enfants sont relativement jeunes, donc peut-être qu'elle a reçu une formation, peut-être qu'elle a, elle a discuté avec des travailleurs sociaux, avec d'autres associations. En tout cas, ce qu'elle dit est important, je crois. C'est-à-dire, l'adoption internationale n'est pas nécessairement en soi toujours un échec, bien au contraire. Et je crois que c'est important d'entendre aussi les voix de familles qui sont heureuses, d'enfants qui peuvent trouver leur place auprès de parents qui les accueillent. Alors, on parle des parents, mais aussi il y a des grands-parents, des cousins, des voisins, des écoles. Enfin, les enfants peuvent effectivement tout à fait grandir heureux, encore une fois, en France. Tout dépend de ce qu'on leur a raconté, tout dépend de la manière dont ils ont été traités, tout dépend de la manière dont, elle a évoqué le cas de la Colombie, les dossiers ont été constitués et les informations dont on dispose sur leur histoire, sur leur passé, sont véridiques ou non.
Mais ce que vous disiez, vous dites aussi dans votre livre, c'est que au-delà de dire ils sont heureux ou ils sont malheureux, il y a aussi, on peut être tout à fait heureux, mais avoir ce que vous appelez dans votre livre une inquiétude d'appartenance, ça crée des troubles forcément. Enfin, on se pose des questions quand on n'a pas la même couleur que ses parents, voilà, pour des tas de raisons.
Alors, on se pose des questions effectivement, mais surtout on pose des questions aux enfants adoptés, voire aux adultes qui ont été adoptés quand ils étaient plus jeunes. C'est-à-dire que
on les renvoie toujours à cette condition.
Voilà, alors souvent, ce qui est problématique en plus avec les personnes qui ont été adoptées, c'est qu'on les renvoie parfois systématiquement au fait qu'ils étaient comme s'ils étaient toujours des enfants. En fait, non, souvent ils sont déjà des adultes, ils ont une parole sur leur propre vie, sur leur propre histoire, etc. Mais aussi, effectivement, on les renvoie très régulièrement à leur pays d'origine, comme si on était toujours un petit Vietnamien, un petit Colombien, un petit Congolais ou je ne sais quoi. Il y a cette idée qu'on ne serait jamais totalement un enfant comme les autres si on a été adopté, pas totalement français, pas totalement intégré, pas totalement blanc, parce que souvent il y a des questions raciales qui se posent autour de l'adoption. Et encore une fois, ce qui va jouer, c'est la manière dont les parents, la famille, les institutions leur parlent, suscite de la parole, suscite de la compréhension et dialogue, en fait. C'est là l'enjeu principal.
Joey Bourguin, on va parler justement peut-être de cette tribune dont vous parliez. Mm-hmm. Ce que vous demandez, c'est important, c'est l'interdiction des adoptions illicites. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer une adoption internationale éthique, comme semble avoir fait Béatrice
oui,
en Colombie?
Oui, est-ce que je pourrais me permettre de juste reprendre un petit peu ce qui a été dit, parce qu'en tant qu'adoptée, je me sens aussi un petit peu légitime à parler de ce que c'est que justement ces problèmes identitaires, et je pense qu'il faut sortir aussi de la vision binaire entre adoption réussie, adoption pas réussie. Et ces discours-là de belles histoires, de contes de fées, j'en entends tout le temps parler. Et ce sont même des avis, pour moi, tous les avis ne se valent pas, puisqu'il y a des avis, des opinions qui vont être plus mises en valeur que d'autres parce qu'ils servent des intérêts. Et donc, il y a ces histoires-là, elles sont mises plus en avant. C'est la narration, pour moi, qu'on appelle la narration dominante de l'adoption, qui tourne autour de cette mythologie du conte de fées, etc. Et alors, je suis la première à dire que mon adoption est réussie. Pour autant, je ne m'empêche pas de décentrer mon regard et d'avoir une vision systémique. Une vision systémique d'un problème.
On sort juste de la famille des parents.
Moi, j'ai été élevée dans une famille aimante, mais j'aimerais aussi qu'on puisse écouter des adoptés qui n'ont pas eu la même chance que moi, en fait. J'aimerais aussi, et malheureusement, ces adoptés-là, on ne les écoute pas. On les invisibilise parce qu'ils desservent les intérêts de certaines catégories, notamment les parents adoptants, qui ne veulent pas entendre parler, justement, de cette vision critique de l'adoption internationale qui n'est pas un conte de fées. Et moi, je ne suis pas dans le ressenti, je suis sur le factuel. Et le factuel, c'est notamment ce que j'appelle la charge transraciale. La charge transraciale, c'est le fait d'être toujours, de naviguer entre deux identités. On a notre identité familiale, adoptive, et notre identité d'origine. Sauf qu'il y a un déséquilibre à l'heure actuelle, notamment au niveau politique, on n'a pas accès à nos origines, en fait. Et ça, c'est un vrai problème.
Par exemple, les enfants qui sont nés sous X en France ont le droit d'avoir accès maintenant à leurs origines.
C'est compliqué aussi, mais il y a le CNAOP qui existe, oui.
Et pour l'instant, pour les enfants adoptés à l'étranger, on vous renvoie vers l'organisme qui s'est occupé de l'adoption, c'est
le
ça
le problème avec l'adoption internationale, c'est que c'est privatisé. Ce sont des organismes autorisés pour l'adoption la plupart du temps. Quand ce sont des adoptions donc qui sont médiatisées par ces associations, qui sont donc... agréés par l'État.
Oui, par le
et après, il y a aussi des adoptions individuelles. Donc ça passe, comme son nom l'indique, par des individus. Ça peut être des avocats, voilà. Comme c'est privatisé, on ne sait pas vers qui se tourner, en fait.
Donc on est vraiment confronté. Vous, par exemple, c'est votre cas. On ne va pas tout ramener à votre histoire personnelle. Vous l'avez très bien dit.
C'est mon cas, comme c'est
celui
de milliers
d'adoptés. Vous avez été adopté en Corée du Sud. Vous n'arrivez pas à savoir
ce
qui s'est passé.
Non, parce que mon agence d'adoption, c'est une agence américaine. Et clairement, la première fois que j'ai vu mon dossier, on me l'a posé devant moi en me disant « il y a une partie confidentielle à laquelle vous n'avez pas accès ». Voilà. Et j'ai tellement été habituée à être infantilisée, parce que voilà, même c'est un tic de langage, de dire toujours enfant adopté. Depuis des années, on est devenus des adultes, voire même, moi je considère qu'il y a des experts à l'heure actuelle. On a cette complémentarité-là, à la fois un savoir théorique, un savoir factuel, et un savoir intime, corporel, en fait, de par notre expérience d'adopté transratio, en fait. Et je pense qu'on a cette force-là, justement, qu'il faut mettre en avant. Et donc oui, en effet, ce problème, pour revenir à la recherche des origines, c'est qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'il y ait une structure qui centralise les informations et qu'on soit accompagné, qu'il y ait un protocole d'accompagnement efficace pour aider les personnes adoptées qui recherchent leurs origines.
Alors justement, on va prendre Stanislas qui est au téléphone. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir.
Je crois que c'est votre cas, vous avez beaucoup beaucoup de mal. Alors racontez-nous votre histoire. Vous avez été adopté, c'est ça?
Oui, voilà, tout à fait. Moi, j'ai été adoptée, en 96. Je suis née en Pologne. J'ai été adoptée par des parents, donc, français. Une vie pleine d'amour.
Oui, c'est important de pas opposer. On peut aimer ses parents adoptants et quand même avoir besoin de chercher ce qui nous est arrivé avant.
Oui, complètement. De toute façon, c'est ce que je suis. Je suis en plein dedans. De toute façon, cette espèce de pied dans le vide. Plus je grandis, plus il est accentué. plus j'ai ce manque, en fait, ce besoin d'avoir des réponses, en fait. C'est vraiment les réponses qui me manquent pour être mieux équilibré dans la vie et me sentir plus libre. Vraiment, ce côté plus libre et je trouve un facteur très important. Même si je suis accompagnée pour ces recherches-là.
Alors, comment ça se passe? Parce que c'est relativement récent, 96 quand même, et vous n'arrivez pas à trouver votre histoire, ce qui vous est arrivé. C'est complexe.
J'ai une base. On a réussi à avoir une base avec l'association sur laquelle j'ai été adoptée à Montauban. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué d'aller chercher les informations les plus détaillées, puis surtout d'aller chercher des réponses, en fait, des réponses sur des personnes notamment qui sont plus là, parce que mon papa biologique n'est plus là, ma maman elle est partie en 91 sûrement dans un autre HLM ou dans une autre habitation en Pologne, du coup plus de moyens de communication, donc c'est un peu compliqué.
Il faudrait presque que vous alliez mener l'enquête vous-même en Pologne, c'est ça en fait?
Et le problème, c'est que, alors oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, il y avait une dame qui, la personne qui était juste avant moi qui parlait, c'est vachement intéressant ce qu'elle dit. En fait, le problème, c'est qu'il faut être accompagné.
Bien
sur
sûr.
Ce genre de choses, il faut être vraiment accompagné et surtout préparé. Accompagner, c'est une chose, mais préparer en amont pour pouvoir aussi faire face
pour encaisser ce qu'on peut trouver pour vous le dire, ouais.
Positif ou négatif, hein, parce que ça peut être positif, mais avoir des émotions qui sont tellement fortes que ça peut déraper, comme à l'inverse, que ce soit négatif et que ça parte dans tous les sens, à mon avis.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Stanislas. Joey Bourguin, il faudrait juste qu'on dise un mot de la convention de l'AE, parce qu'on l'a évoqué sans expliquer ce que c'était. C'est une convention que la France a ratifiée en 98 et qui réglemente, hein, l'adoption internationale, qui dit bien que ça doit être le dernier recours. C'est-à-dire qu'en premier recours, on doit chercher une solution au sein de la famille, puisqu'on sait que beaucoup d'enfants candidats à l'adoption en fait ont encore un parent, souvent, ou dans le pays, et en dernier recours, en quelque sorte, l'étranger. Est-ce qu'elle est respectée, cette convention de l'AE, notamment par la France, puisqu'on parle de la France?
Là, pour le coup, l'entrée par les adoptions illégales nous permet de constater que non. En fait, il n'y a pas le respect de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce que vous avez évoqué, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que on doit toujours faire en sorte de maintenir l'enfant le plus possible dans son environnement proche. Donc ça va de la famille proche à l'environnement culturel, en fait, et le pays de naissance. En effet, l'adoption internationale est censée être en dernier recours, et tout cela au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, ça c'est aussi un droit international privé inscrit à la fois dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et la Convention de l'AE de 1993. Or, les adoptions illégales nous prouvent le contraire.
On le respecte toujours pas, même aujourd'hui, les adoptions qui se passent aujourd'hui, il y a encore des adoptions
justement,
illégales.
Justement, il nous faut des chiffres pour ça. Il nous faut des chiffres, en fait, parce que là, le problème, c'est quand on énonce le fait que... Parce que moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'adoptés qui, à chaque fois, me répètent les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on voit des mécanismes qui se dessinent, des tendances qui se dessinent dans chaque pays d'origine. Et on manque de données pour vraiment avoir un appui factuel, en fait, dans les propos. Parce que tant qu'on dira qu'il y a des dérives sans avoir de chiffres, on pourra nous ramener simplement à une opinion personnelle. Mais je ne pense pas là, je ne pense pas simplement exprimer mon opinion personnelle de par mon expérience, de par les témoignages que j'ai pu recevoir. Et c'est pour ça qu'aussi l'annonce d'Adrien Taquet là récemment, le 15 décembre...
Le secrétaire d'État à l'enfance, voilà, oui, du gouvernement.
Exactement, qui a annoncé qu'il allait avoir une commission d'enquête sur les adoptions illégales. Je pense que c'est une bonne chose, mais qu'il va falloir rester aussi vigilant sur la façon dont cette enquête va être menée.
On va retrouver Sébastien Roux. Je vous rappelle, vous êtes sociologue, vous avez travaillé aussi sur l'adoption internationale. Quel écho par rapport à ce qu'on se dit sur notamment la difficulté de savoir ce qui s'est passé vraiment. Vous avez enquêté notamment en Éthiopie. On voit bien que parfois les états civils sont faux, que les déclarations sont mensongères. Tout ça est très complexe. Il faudrait là aussi une commission d'enquête, des enquêtes internationales pour faire la lumière sur tout ça.
C'est compliqué, en fait. Sur le principe, certainement. Mais en fait, concrètement, Par exemple, vous prenez le cas de l'Éthiopie. Est-ce que c'est à la France d'aller lancer une enquête internationale en Éthiopie avec des responsabilités? Parce qu'effectivement, alors, il faut pas non plus faire de l'adoption internationale une sorte de crime généralisé. Ça ne l'est pas. Il y a plein de situations qui sont tout à fait correctes, qui fonctionnent bien, qui correspondent aux recommandations de la Convention de la Haye. Donc, encore une fois, il faut faire attention à pas faire une généralisation abusive. Mais effectivement, prenez le cas d'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas signé la Convention de la Haye. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé en Éthiopie est nécessairement négatif ou criminel. Ça veut dire que ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'on appelle des bonnes pratiques ou la manière dont aujourd'hui on conçoit ce que doit être une adoption internationale éthique. Mais encore une fois, concrètement, si par exemple un état civil a été falsifié, ça veut dire qu'il y a une responsabilité d'un bureaucrate. Si, par exemple, une décision de justice a été trop rapide, ça veut dire qu'il y a un juge, il y a 15 ans ou 20 ans, qui a pris une décision peut-être contre un pot de vin, etc. C'est extrêmement difficile. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis que c'est extrêmement difficile concrètement d'apporter des réponses via une commission d'enquête.
Je vais apporter une petite précision. En février, aux Pays-Bas, toutes les adoptions internationales ont été suspendues après, justement, une commission d'enquête parlementaire. Au Danemark, il y a des investigations en cours sur une trentaine d'enfants adoptés au Chili. La Suède vient de lancer une enquête sur toutes les adoptions internationales depuis les années 50, une mission qui va durer jusqu'en 2023. On sent que ça se passe partout en Europe, hein, Joey Bourguin. C'est pas que une question française, c'est une question de tous les pays du Nord. La France est un petit peu en retard, malgré cette annonce dont vous nous parlez d'Adrien Taquet sur l'ouverture d'une commission d'enquête en France. Il faut vraiment là y aller, il faut rouvrir les dossiers.
Il faut vraiment y aller, je pense. Oui, en effet.
Pour garder chaque adoption.
D'un point de vue chronologique, en effet, là, la France est légèrement en retard par rapport aux autres décisions politiques prises dans d'autres pays européens. En effet, donc là, il faut. Et c'est vrai que une enquête. Selon moi, me semble indispensable pour avoir justement des chiffres, des données et avoir conscience de l'ampleur de ces adoptions illégales. Et ensuite, une fois qu'on a conscience de l'ampleur, réussir à définir les responsabilités de chacun. Voilà. Donc c'est important aussi d'avoir des chiffres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour toutes ces raisons. Et c'est pour ça que aussi l'association RAIF, on a des revendications aussi au niveau des droits, notamment comme vous disiez tout à l'heure, la convention de la Haye, le fait de respecter, de faire en sorte que l'État français, en tout cas puisque nous sommes des citoyens français, donc on s'adresse à notre gouvernement, et l'État français, c'est que l'État français fasse en sorte de respecter le principe de subsidiarité, d'évaluer aussi les critères de ce qu'on appelle d'adoptabilité des enfants.
Est-ce qu'ils sont vraiment orphelins,
voilà,
etc.
On sait que dans 80% des cas ils ne le sont pas, mais en tout cas
est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait s'occuper
d'eux. Et dans ces cas-là, c'est là aussi où il faut avoir une vision plus globale de ce qui se passe, parce que c'est pas parce qu'il y a des... Ok, c'est un constat qu'on peut faire, qu'il y a encore des orphelins. Mais d'où proviennent ces orphelins? Pourquoi est-ce qu'ils sont orphelins? Ils ont encore des parents. Est-ce que les parents les ont abandonnés avec un consentement éclairé? Est-ce qu'ils n'ont pas été abusés? Est-ce que ces enfants n'auraient pas pu rester dans leur famille s'il y avait des politiques efficaces de protection de la famille, d'aide de l'enfance, dans le pays? Enfin voilà, il y a plein de questions à prendre en compte qui relèvent pour moi de questions systémiques plus globales, en lien notamment... avec un système capitaliste, un système impérialiste. Voilà, il faut avoir conscience aussi des mécanismes en jeu au niveau international.
Aussi un héritage aussi du passé colonial.
Exactement,
des pays
pour
du
moi,
Nord,
il y a un continuum colonial aussi qui se joue au sein de l'adoption internationale. Et là encore, je ne suis pas dans le ressentiment, parce que je sais que ce sont des mots qui n'ont pas le vent en poupe à l'heure actuelle, mais qui sont importants de rétablir, parce qu'il nomme des faits, tout simplement. Il faut avoir conscience de ce qui s'est produit dans l'histoire et des conséquences de l'histoire encore à l'heure aujourd'hui, y compris jusque dans nos vies personnelles et intimes, en fait. C'est là tout ça, le continuum colonial, en quoi c'est intéressant aussi d'en avoir conscience, en fait.
Je vais lire un message de Catherine qu'elle nous a envoyé par mail, qui rejoint un petit peu ce que vous dites, Joey Bourguin. Le regard intérieur est aussi crucial. Des parents blancs qui affirment ne pas voir les couleurs et ne pas préparer leur enfant au monde et qui refusent de comprendre la situation du monde, les adoptés sont trop rarement entendus. Donc voilà, on peut avoir beaucoup de bonnes intentions et penser que l'amour efface tout et que l'amour permet tout, mais c'est évidemment plus compliqué. Et puis Anne qui nous dit à l'inverse, ma fille se sent 100% française, c'est elle qui n'a jamais voulu aller au Vietnam. On va aller au standard pour écouter Corinne. Vous êtes en ligne, Corinne, vous attendez depuis longtemps, pardon, on vous prend, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Donc moi, j'ai un petit garçon que j'ai adopté en Haïti, qui a maintenant 14 ans. Il est arrivé d'abord, il avait 6 ans. Moi, j'ai eu une démarche longue, puisque mon adoption s'est déroulée au moment du séisme.
Donc en 2010
voilà. Je fais partie d'une association qui s'appelle ASF, avec laquelle je suis restée, j'ai continué d'œuvrer pour venir en aide à la crèche dans laquelle mon fils était. Donc je suis en contact permanent avec eux, donc tout se passe bien. Je voulais dire aussi, effectivement, je ne nie pas les difficultés de l'adoption illégale, mais enfin, il y a plein de choses qui se font et qui sont très belles sur des adoptions légales. Nous, ça se passe bien. Moi, j'ai un fils de 14 ans, donc en pleine adolescence, avec toutes les difficultés de l'adolescence, mais comme tout le monde, hein, on a eu beaucoup de dialogues au départ. Arrivé à 6 ans, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, enfin, il faut pas avoir peur d'adopter des enfants plus grands, même s'ils ont une histoire. Il faut beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, je pense, ensuite. Hein. Et puis, surtout, on parlait de contexte géopolitique, et là, vraiment, Haïti en est vraiment le reflet complet, puisque en ce moment, je suis toujours en lien avec cet orphelinat, cette crèche. Donc en Haïti, l'ASF soutient deux crèches à Port-au-Prince qui sont coupées du monde en ce moment, mais totalement coupées du monde, puisqu'il y a une telle insécurité que les adoptions ne peuvent plus avoir lieu. Et ces crèches vivent grâce à l'adoption. Il faut savoir que ça permet de faire vivre d'autres enfants qui sont présents dans les crèches et qui ne sont pas forcément adoptables, mais il y a des enfants adoptables que les parents ont laissés, c'est le cas de mon fils. Les parents ont signé un consentement éclairé en disant voilà, on veut le meilleur pour lui, et donc on le confie à l'adoption internationale. Hein. Et à aujourd'hui, tout est arrêté pour cause d'insécurité. Et effectivement, la France dit tant qu'il y aura de l'insécurité, mais il n'y a plus de président puisqu'il a été assassiné il y a quelques mois.
Tout est bloqué, quoi.
Voilà, tout est bloqué. Et ces crèches-là, nous, on est en train de faire des collectes de dons, d'essayer de récupérer un peu d'argent pour continuer de faire vivre tous ces enfants en espérant un jour que ça se débloque. Mais alors, c'est très aléatoire. Hein. Mais en attendant, ces enfants meurent de faim dans les crèches. Hein. Voilà. Donc, c'était un autre témoignage, c'est autre chose. Nous faisons face à des difficultés autres. Les crèches avec lesquelles nous intervenons, les enfants ont été extrêmement bien préparé, même si on dit préparé, effectivement, c'est très aléatoire là aussi, mais en tout cas, à l'origine, j'étais la maman blanche de mon fils, c'est-à-dire qu'on n'a jamais nié l'existence de ses parents, c'est une autre approche. Les questions ont été posées, elles ont été très nombreuses à son arrivée, il a lui-même posé énormément de questions auxquelles j'ai répondu. Moi, le dossier est accessible s'il le souhaite, pour l'instant, il ne souhaite pas y mettre son nez. J'espère pouvoir un jour retourner là-bas, mais c'est très...
Oui, la situation est compliquée,
c'est
bien sûr.
C'est quasi impossible pour le... Enfin, c'est même impossible pour le moment, puisque nous-mêmes, à travers l'association, on ne peut pas y mettre un pied. Donc, voilà. Donc, et la convention de la haie, elle est très bien, elle est très belle, hein, mais là, en l'occurrence, en Haïti, personne n'est ni capable, ni n'a la volonté d'adopter des enfants qui sont dans ces orphelinats. C'est impossible. Donc voilà, c'est mon témoignage et je suis profondément navrée parce que j'ai une nouvelle régulière et là on se prépare à envoyer un tout petit conteneur, on vous a fait une petite place dans un conteneur pour envoyer quelques boîtes de sardines et de thon pour qu'ils aient un petit apport en protéines et ils doivent manger une fois par jour. Donc voilà, moi j'ai mon fils là et je m'en occupe, mais voilà ce qui se passe aussi, et c'est dû à un contexte géopolitique. Et Haïti est un pays qui n'occupe pas grand monde parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt économique.
Un des pays les plus pauvres du monde. Oui. Merci.
Personne ne se préoccupe de ce pays. Donc voilà, et ça n'est pas le seul.
Merci beaucoup Corinne de votre témoignage. On a bien entendu. Peut-être une brève réaction de Sébastien Roux. Vous êtes toujours avec nous sur la situation particulière d'Haïti. Là, on entend hein, ce que dit Corinne. Elle dit il y a des enfants à sauver quand même là-bas. Voilà, on entend ce qu'elle dit.
Alors, à sauver, c'est compliqué parce que les parents adoptants sont pas nécessairement là pour sauver les enfants. Mais par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce témoignage, c'est l'auditrice, donc Corinne, expliquait bien qu'elle a été préparée, qu'elle a discuté et que l'enfant qu'elle a adopté, donc 14 ans, hein, c'est ça, c'est assez récent au final. Et c'est un petit peu
oui.
ça qui est
oui, compliqué. Oui, c'est au moment du séisme de 2010, c'est ce qu'elle dit. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et c'est un peu ça qui est compliqué des fois avec l'adoption. Il y a une sorte de décalage temporel.
Oui, c'est-à-dire que ceux qui parlent aujourd'hui sont victimes de pratiques qui peut-être, on espère, ont régressé.
Ont diminué, ont régressé. Et j'imagine que la manière dont madame a adopté son enfant en Haïti il y a un peu moins d'une dizaine d'années est assez différente de celle qui a dû se passer il y a 20 ou 30 ans dans d'autres pays où effectivement il n'y avait pas ce même sensibilisation en fait aux questions d'origine, de discours, de différence de couleur au sein des familles, d'arrivée, d'accueil, etc. etc. Les choses ont changé. Et il faut faire attention à pas faire un procès, encore une fois, général contre ce qui serait le système de l'adoption internationale. Il faut, je crois, écouter la diversité des témoignages. Il y a effectivement des situations où ça s'est mal passé, il y a des situations où il y a eu du secret, il y a des situations où les histoires n'ont pas été racontées, mais il y a aussi des situations où la possibilité d'adopter a offert des possibles en fait pour les enfants.
Est-ce que je peux me permettre juste de demander à monsieur Roux s'il est bien sociologue ? Je suis désolée parce que là je lance pas de polémique, mais là vous êtes dans un relativisme en fait. Non, c'est pas agressif. Je vous pose réellement une question sincère parce que pour moi la sociologie c'est pas individualiser comme ça les cas en fait. Enfin,
mais c'est peut-être est-ce que vous voyez
l'aspect factuel de l'adoption internationale, l'aspect structurel aussi de l'adoption internationale, le contexte géopolitique. Et juste pour terminer là-dessus, je dirais simplement que les personnes qui se sentent vraiment investies et qui ont conscience de ce contexte géopolitique, plutôt que d'aller prendre un enfant, l'extraire. Là aussi, c'est quelque chose de colonial, d'aller extraire une ressource, d'aller extraire un enfant
c'est
de son tissu.
Plutôt d'aller les aider, d'aller
voir ce qui se passe localement. Et je pense qu'il faut relocaliser l'adoption.
Je voudrais juste qu'on prenne 30 secondes, pardon, parce que c'est quand même les auditeurs. On a Florent en ligne, ce sera notre dernier auditeur ce soir, et ce qu'il a à dire est très intéressant. Bonsoir Florent, on vous écoute.
Je ne sais pas si c'est très intéressant, non, je voulais juste témoigner du fait que je trouve que dans l'adoption même, qu'elle soit internationale d'ailleurs ou française, le processus comporte une violence et que finalement c'est peut-être l'adoption tout court qu'on devrait réformer. Je trouve que de prendre le passeport d'un enfant où il y a écrit père X, mère Y, de le déchirer et d'en faire un tout neuf avec père X et père Y qui est une pure fiction, je trouve que ça comporte une violence. Et je comprends après que derrière, les enfants, certains enfants peuvent toute leur vie durant essayer de retrouver qui était sur le premier passeport. Voilà.
Merci Florent. Je pense qu'on va terminer avec vous. Ce que vous dites bien, et peut-être ce sera le mot de la fin pour essayer de finir sur, c'est qu'il faudrait peut-être réinventer la manière d'adopter. En France, on fait des adoptions plénières qui effacent le passé de l'enfant. Peut-être on peut avoir plus de deux parents. Peut-être qu'on peut faire des adoptions simples. Oui. Il y a plein de choses à inventer, hein. Voilà. Je suis désolée. On est obligé de s'arrêter. C'est le téléphone sonne. 19h59 et 45 secondes. Merci beaucoup à Joey Bourguin. Merci. Je rappelle que vous êtes autrice de l'adoption internationale, mythes et réalités, et de Sébastien Roux, auteur de Sang d'encre, enquête sur la fin de l'adoption internationale.